Bon mardi matin tout le monde! Merci d'être avec nous aujourd'hui au podcast des millionnaires des diamants. Donc, on a amorcé depuis la semaine dernière un nouveau chapitre dans le livre « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell, où est-ce qu'on couvre différentes compétences et habiletés qu'un leader se doit de développer. Donc, on parle en fait de vision. Donc, la vision étant être capable de transmettre une réalité qui n'existe pas encore. Donc, ce qu'on a découvert dans les deux derniers podcasts, c'est l'importance d'avoir une grande vision pour un leader. Parce que si malheureusement il ne l'a pas, il ne peut pas amener son équipe au prochain niveau. Donc, on a couvert trois principaux éléments. Donc, qui nous disait que ce que vous êtes capable de voir en tant que leader va déterminer qui vous êtes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on commence en fait dans le milieu du leadership, à avoir soit une position, à être à la tête d'une équipe, à gérer une équipe, à vouloir aider les gens, on va avoir quatre types de personnes qu'on va retrouver. On va retrouver des gens qui malheureusement vont quitter, on va retrouver des suiveurs, on va retrouver en fait des gens qui vont accomplir pour eux-mêmes et on va retrouver des leaders. Donc, des gens, en fait, qui vont vouloir aider d'autres personnes à réaliser leur vision, mais aider ces gens-là aussi à déterminer quelle est leur vision personnelle pour qu'à leur tour, ils puissent devenir un leader. Donc, quand on comprend que la vision que l'on a va déterminer qui l'on va devenir aussi en tant que personne. Deuxième élément que l'on a couvert, on a dit, en fait, que vous devez être préparé. Vous allez voir uniquement ce pour quoi vous êtes préparé. Donc, l'importance de rester un élève à tous les jours, de rester dans l'action. Parce que c'est l'action, c'est cette éducation-là, c'est le fait de toujours se former, de toujours vouloir apprendre, de toujours remettre en question ce que l'on est en train de vivre, va nous permettre de voir des nouvelles opportunités passer devant nous. Mais si malheureusement, je crois que c'est seulement qu'en restant assis puis en disant la vie devrait, la vie me doit quelque chose, c'est pas comme ça que ça va arriver. Et finalement, de comprendre que un leader a un mindset différent. Donc, les leaders ont un mindset de, ils vont voir les choses avant qu'elles arrivent. Ce qui veut dire que un leader a une vision, a un objectif, veut atteindre quelque chose. Il est capable de le voir avec précision, donc, et clarté dans sa tête avant même que ce soit arrivé. Alors que la majorité des gens disent, je vais devoir le voir avant de le croire. Ben, un leader est capable d'y croire avant de le voir parce qu'il va le visualiser dans sa tête, cette capacité-là. Et on vous a partagé l'exemple de Walt Disney, donc hier, qui est un excellent exemple avec le poster que Sylvain a aussi déposé sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On va passer maintenant à la prochaine étape. Donc, c'est important d'avoir une grande vision parce qu'on voit ce que ça fait pour le leader et pour l'équipe. Et Sylvain, aujourd'hui, va commencer la section à nous parler de pourquoi est-ce que c'est important d'un leader de voir beaucoup et de voir avant, donc de voir plus et avant les autres pour diriger une équipe. Fait que Sylvain, je te laisse la parole.
Merci Jean-Philippe. Oui, exactement. Hier, on a vu le poster. Je suis retourné le voir. C'est impressionnant. On voit donc Walt Disney. Vous savez, Walt Disney n'a même pas vu l'inauguration de son parc. Il est mort avant, en fait. Puis, comme on racontait hier, quand on a ouvert, fait l'ouverture du parc, on a invité sa femme. Puis là, on a dit, c'est tellement dommage. On aurait aimé ça que Walt voit donc ce qu'il avait conçu, en fait. Et là, sa femme s'est levée puis elle a dit, non, il l'a vu. Parce que lui, il l'a vu avant, puis il l'a vu plus loin que les autres, en fait. Puis donc, cette image-là, dans le fond, on voit Walt Disney qui est dans l'espèce de champ. Vous savez, là-bas, c'est des marécages, toutes sortes de choses. Et là, on voit comme une silhouette donc du château. Donc, il imagine ça. Un peu aussi comme Robert Woodruff qu'on parlait aussi, donc le CEO de Coke, qui avait la vision de dire que tous les êtres humains, donc sur la Terre, vont avoir goûté au Coca-Cola. OK? Donc, alors, il a eu cette vision-là. Et cette vision-là a fait que ça s'est matérialisé, en fait. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler comment les gens, donc les leaders, eux autres, quand ils voient loin, en fait, ils vont pouvoir amener leurs gens. Fait que bref, vous savez qu'on peut jamais amener nos gens plus loin que la vision qu'on a, notre propre vision pour notre futur, de notre organisation. OK? Par exemple, quand on dit un millionnaire, est devenu un millionnaire dans sa tête en premier. On peut pas accomplir $1 million si on le conçoit pas dans sa tête. Moi, quand j'ai commencé dans le MLM, on faisait des exercices, on nous demandait « Combien tu vaux? » Moi, je gagnais à cette époque-là 35 000. Je me disais « Ben, je pense que je vaux 50 000, mettons. » OK? Puis là, c'est là, on me disait « Ben non, voyons donc! » Tu mérites pas 50 000, tu es une personne engagée. Regarde, tu es là pour les élèves, tu fais des projets pour les élèves. Après ça, tu écris des subventions pour que l'école aide l'argent pour des livres, pour une radio étudiante. Regarde, tu fais Tupperware, donc pendant que tout le monde est assis dans son salon, toi, tu es en train de te former. OK, fait que là, OK, ben 75 000. Non, pas 75 000. Puis là, OK, 100 000. Là, à un moment donné, j'ai commencé à croire aux 100 000. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à croire à 250 000. Puis là, je me suis dit, hey, moi aussi, je pourrais être millionnaire, en fait. OK? Fait que, bref, tu peux jamais atteindre quelque chose que tu ne visualises pas. OK? Ça, on appelle ça la chance, sinon. OK? Même ceux de la loto, ceux qui achètent des billets de loto, ils visualisent qu'ils gagnent. OK? Alors moi, je visualise pas ça. Je le visualisais de le faire de mes propres mains, en fait. Fait que c'est ça. Fait que bref, on peut jamais amener notre équipe plus loin que la vision qu'on a pour notre équipe. OK? Donc, c'est ça l'important, donc, de notre vision. Puis, la vision, dans le fond, on doit la chérir comme si c'était un plan d'architecte. T'sais, vous savez, on appelle ça un blueprint, là. L'architecte, donc, c'est comme dessiner, puis c'est une encre bleue, là. Donc, alors, bref, je l'imagine, je le mets comme sur un plan d'architecte. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Donc, ma future maison, ma future, mon futur, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a l'air, en fait? Fait que ça, c'est l'importance, donc, de voir ceci. Donc, de voir plus loin. Puis là, vous savez, donc, les bons leaders voient toujours plus loin que les autres. Puis les leaders voient avant que les choses arrivent. Ils ont la vision avant et non pas l'inverse. Hier, on parlait, donc, que on a besoin de voir pour croire, mais les bons leaders ont besoin de croire, OK? Pour... Non, c'est tout ça? Jean-Philippe, aide-moi.
Répète ta phrase.
Oui, c'est ça. On a besoin de croire avant de voir.
Oui, exactement. Puis être humain normal va devoir voir avant de croire.
C'est ça, exactement. OK? Fait que quand on commence dans le MLM, OK? Donc, on a besoin, donc, des fois, de voir avant de croire parce que, tu sais, on ne sait pas, là. On arrive dans cette entreprise-là. OK? C'est rare que tu vas croire avant de voir. Fait que quand moi, j'ai commencé, en fait, c'est clair que j'ai rencontré des critiques. OK? Puis, probablement que vous avez aussi rencontré des critiques. Allez dans le chat, partagez-nous, en fait, là, qu'est-ce que les gens vous ont dit quand vous avez dit « Je vais joindre mon entreprise. » Dani, je suis curieux de savoir qu'est-ce que le monde y t'ont dit. OK? Créez-nous ça dans le chat. Quand tu as décidé de dire « Hey, je vais vendre du Tupperware. » Premièrement, tu vas rencontrer plein de gens qui vont te dire « Hey, c'est une arnaque cette affaire-là. C'est une pyramide. Tu peux pas faire d'argent. Il y a juste la personne en haut qui va faire de l'argent. » OK? Ça, c'est ce qu'on va entendre. Tu vas entendre aussi « Tu vas perdre de l'argent. » OK? Nathalie, je suis curieux de savoir. Tu sais, elle avait une job à Desjardins. Qu'est-ce que le monde y t'ont dit? Écris-nous ça dans le chat. OK? Là, demande-moi pas de joindre, puis demande-moi pas de t'encourager. Là, moi, je crois pas à ça. Là, tu vas te faire avoir. Ok? C'est le genre de commentaire que tu vas avoir. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fait, puis ça a duré 2 mois, puis ça marche pas. Il y a personne qui réussit dans cette entreprise-là. Donc, tu vas entendre plein d'histoires comme ça de gens qui sont des naysayers, tu sais, qui vont toujours être là pour te être le, tu sais, l'ange puis le démon, là. OK? Eux autres sont là pour te dire que ça marchera pas, en fait. Mais là, moi, j'ai commencé à assister au meeting. Et là, dans le fond, c'est que oui, c'est vrai, j'avais toutes ces choses-là que j'entendais, mais en même temps, j'avais des exemples. Donc, je voyais quelque chose. Je voyais une Annie Marchand qui réussissait. Là, elle avait eu son premier bonus de 5 000 Oh my God, 5 000 dans un mois, on capotait tout, là, tu sais. Pauline qui avait eu un bonus de 3 000, ça c'est la première, elle avait eu un bonus de 3 000, on capotait tout, là, tu sais. On disait, my God, 3 000 dans un mois, OK? C'était rien, là, OK? Mais au début, c'était vraiment impressionnant pour nous. Et là, tu vois une amie qui décide finalement qu'elle travaille en télévision, puis là, elle décide de lâcher cette job-là pour vendre du Tupperware. T'imagines? Donc, toutes les histoires qu'on voit comme ça. Après ça, j'avais l'exemple de Maria. Maria qui avait décidé d'en faire une carrière, tu sais, depuis l'âge de 18 ans. Elle avait élevé sa famille. Là, je vois sa maison. Tabarouette, pas une petite maison, là, OK? Puis là, je vois qu'ils sont propriétaires d'immeubles à revenus. Ah, ouais, comment ils ont fait ça? Ben, tout ça grâce à ton MLM, en fait. Fait qu'après ça, ça te permet de pouvoir croire, OK? Puis après ça, donc, de c'est ça. Jean-Philippe, qu'est-ce que les gens nous ont dit, donc, parmi des raisons que... qu'est-ce qu'ils se sont fait dire quand ils ont joint un MLM?
Ouais, ben on a genre, c'est pas une bonne idée, tu vas perdre de l'argent. Puis tu sais, si moi, je me replace à quand... quand j'ai décidé de commencer. Donc, moi, j'ai assisté à une présentation, puis ce que je savais pas, c'est que j'étais allé avec une de mes amies, mon chum avait dit à mon ami, là, fais juste le regarder, OK, pour pas qu'il fasse trop de folie. Il me connaît, là, quand même, là. Et durant, bon, la présentation, j'ai décidé de faire un party, mais genre, dans la présentation, j'ai dit, ah, OK, je pense que je vais me mettre en avant, ça va être une opportunité pour moi. Et là, mon ami écrit à mon chum, là, il va décider d'en vendre. Puis là, mon chum était comme, arrête-le, arrête-le. C'était un peu ça. Finalement, genre, revenu à la maison, bon, il n'y avait pas un mot à dire. Fait que c'est un peu comme ça. Mais, je veux dire, Jonathan n'a jamais rien dit. Il a regardé, il a observé, me connaissant aussi. Mais c'est quand je l'ai annoncé à mes parents, puis surtout que moi, ça a été très rapide. Après seulement 9 mois dans la compagnie, j'ai décidé, en fait, de quitter mon emploi puis de faire ça à temps plein. Et, bon, ma mère m'a pas dit « lâche ça, c'est une arnaque », mais la manière dont elle posait les questions était « là, t'es sûr, t'as quand même fait un bac de 4 ans, là, tu feras pas ce pourquoi t'as étudié, tu oublies pas qu'on t'a aidé, on t'a soutenu durant toutes ces années-là ». Donc, c'était comme les questions sous-entendaient tous les jugements, en fait, que j'aurais pu avoir. Fait que ça a été, moi, la réaction. Mes amis, ça n'a pas été trop pire. Bon, j'en ai pas tant non plus avec eux autres, genre, de ces notions-là. Fait que je les ai coupés de la possibilité qu'ils puissent avoir, en fait, une opinion de ce côté-là, comme Nathalie a dit aussi.
Exactement, c'est ça. Fait que, bref, faut protéger. Donc, des fois, c'est bon de pas trop en parler, en fait. Ils vont savoir à un moment donné, en fait. Fait que, bref, quand ta conviction dans l'entreprise, quand la conviction dans le produit, quand la conviction est forte que tu as dans les leaders, en fait, alors, ça va renforcer, donc, tes propres rêves, en fait. Puis là, de cette façon-là, tu vas avoir une chance de réussir. OK? Mais si tu fais juste écouter les autres, OK? Donc, tu n'auras jamais la chance de pouvoir réussir. Je vais toujours me rappeler, j'avais une enseignante d'anglais, je ne connaissais pas beaucoup, mais elle était dans mon école, en fait. Puis là, j'y parle du produit, tu sais, elle voit mes lunchs, tout ça, j'y parle de l'IntelliFrais, elle est toute excitée. Finalement, on date un party, mettons, pour le prochain samedi. Le lendemain, elle me revient, puis elle me cancelle, puis elle me dit non, ça ne marche pas, c'est pas vrai, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est allée en parler à des gens qui... bien intentionnés ou mal intentionnés, donc ont vécu peut-être une expérience qui ne croyaient pas à ça, en fait, puis qui ont tout démoli, en fait, puis que finalement, il est revenu en disant non. Puis après ça, je n'ai jamais été capable, donc, de reparler de ça ou de la reconvaincre, en fait, parce que, elle a, dans le fond, ce sont ses amis qui ont gagné, OK? Sa conviction n'était pas assez forte, OK? Donc, de là l'importance d'avoir une bonne conviction, donc, dans votre produit, dans vos leaders. Et qu'est-ce qui va renforcer cette conviction-là? C'est, on a écrit le podcast, donc, un livre qui est, donc, 1 million de en un an, en fait. Donc, c'est un livre qui vous permet, dans le fond, de pouvoir 10 étapes pour atteindre 1 million de ventes en 12 mois. Merci. Je l'avais pas sous la main. Alors ça, c'est un livre justement qui vous aide dans le fond d'avoir confiance en votre produit, en vos leaders, en la compagnie. Donc c'est la base en fait. Donc quand vous avez la confiance, après ça, vous allez être capable de pouvoir aller haut et fort. Puis que même si vous entendez les naysayers, donc ils vont pas gagner sur vous en fait parce que votre conviction est forte en fait. Alors voilà. Fait qu'au début, vous allez voir, les gens ils vont vous dire que vous avez pas raison, OK? Que tu devrais pas faire ça. Là, après ça, ils vont voir un peu ton succès après 3, 4, 5 mois, 1 an, 2 ans, puis ils vont dire « Ouais, c'est vrai, ça marche, mais ce que tu fais, c'est pas vraiment important. » Puis là, tu vas aller, mettons, dans un mariage italien, dans une rencontre familiale, et voici ce qui va se passer. Jean-Philippe, veux-tu l'expliquer?
Donc, que ce soit, tu sais, un mariage ou, tu sais, un événement familial à Pâques, durant le temps des fêtes. Donc, tu sais, un mariage aussi, il y a plein de nouvelles personnes. Tu as la chance de rencontrer aussi là, la famille opposée. Et là, il y a quelqu'un qui commence. OK, hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que là, il dit, ah, moi, je suis un enseignant. Puis là, tout le monde est comme, oh, wow, mon Dieu. Fait que toi, tu es en train de former la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu enseignes? T'es-tu au primaire? T'es-tu au secondaire? Puis peu importe où est-ce que tu enseignes, au primaire, oh wow, t'es bon, je serais pas capable de travailler avec des jeunes. Au secondaire, oh mon Dieu, t'es bon, je serais pas capable de travailler avec des adolescents. Wow, OK? Mais dans le plus profond d'eux-mêmes, il y a personne qui voudrait faire cette job-là. Et là, ils passent au prochain. Là, ils disent, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis infirmier, je suis infirmière. Oh wow, mon Dieu, fait que toi, t'es vraiment, c'est un don de soi. T'es auprès des patients. Ah, t'es à l'urgence en plus. Mon Dieu, que ça doit pas être facile. Tu dois en voir passer des affaires. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se disent, mon Dieu, que je ferais pas sa job. Et là, ils passent au prochain. Ah, moi, je suis un comptable. Wow, tu dois faire beaucoup d'argent, tu gères des chiffres, tu t'assures que tout est correct. Mon Dieu, c'est vraiment cool. Mais ils savent que de février jusqu'à fin avril, t'existes pas sur la map, t'as pas de vie, genre, puis t'es sur le bord d'un burn-out. Mais mon Dieu, qui t'admire. Et là, ils arrivent à toi. Puis ils disent, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu te dis, ben, moi, je suis un monsieur Tupperware. Et là, il y a comme un silence, tu sais, un 3, 4, 5 secondes de silence inconfortable, autant pour eux autres que pour tout le monde aux alentours. Puis toi, t'es comme, oh oui, je suis un monsieur Tupperware. Et là, ils te regardent du haut de la tête jusqu'au bas des pieds. Là. T'sais, ils sont comme en train de faire comme un robot en train de te scanner. Okay? Et là, genre, c'est comme s'il y avait une bulle qui apparaissait à côté de leur tête, là, comme dans les cartoons. Puis là, tu pouvais tout lire les jugements qu'il y avait. Puis là, ils te posent la prochaine question. Ouais, mais tu dois faire autre chose. Et là, genre, tu dis, non, je fais ça à temps plein. Et là, il y a un autre silence inconfortable. Et la question d'après, c'est, c'est-tu vraiment payant? OK? Tu sais, ils essaient de projeter leur insécurité souvent sur une mauvaise conception, une mauvaise éducation, une expérience passée, même pas une expérience personnelle, une expérience d'une personne qu'ils ont connue à travers quelqu'un qui leur a dit qu'il était peut-être arrivé ça à quelqu'un. Donc, on sent encore une fois tout ce jugement-là, en fait, nous frapper de plein fouet. Et c'est vraiment leur inconfort qui crée ce silence-là inconfortable, alors que pour toi, t'es comme, oh oui, c'est ce que je fais à temps plein. Parce que toi, t'as développé cette conviction-là, en fait, sur ce que ça peut t'apporter.
Et voilà, fait que c'est ça. Fait que bref, au début, ils vont dire que t'as pas raison. Après ça, ils vont dire que c'est pas vraiment important ce que tu fais. Puis après ça, ils vont dire, oh my God, hey, je savais que t'allais réussir. Oh, je savais que c'était bon ce que tu faisais, en fait. Tu sais, je l'ai toujours su, en fait, puis j'ai toujours cru en toi, OK? Souvent, ça va être le pattern que les gens vont avoir, en fait. Alors, vous allez être l'exemple qui allez leur montrer qu'ils ont tort, que c'est pas vous qui avez tort. Les psychologues, ils ont écrit, en fait, que rendu à un certain âge, on commence à perdre nos illusions, en fait. On commence à perdre la vision d'un meilleur futur pour nous, pour notre famille, en fait. Et c'est à l'âge de 45 ans environ que les gens, ils vont commencer à devenir, tu sais, complaisants. Ils vont commencer à dire, ah ben finalement, tu sais, je l'aime ma job. Ah, finalement, je fais qu'est-ce que j'aime. Ah, dans le fond, tu sais, je l'aime ma maison, là, j'ai pas besoin de plus. Mes vacances, ben oui, ça, tu sais, ils vont plus avoir la vision. Donc, versus, puis là, évidemment, il faut pas qu'on prenne ça au pied de la lettre, là, c'est pas tout le monde, c'est ceux et celles qui ne sont pas dans cette, dans un MLM, par exemple, ou qui ne travaillent pas sur leur vision, sur leur rêve, en fait. Souvent, vous allez rencontrer des gens, donc quand ils commencent Tupperware, c'est que, je dis tout le temps, il y a... quand tu vas commencer Tupperware, en fait, c'est que tu vas avoir de la braise, en fait. Okay? C'est que des fois, tu as oublié tes rêves, tu as oublié ce que tu voulais de ta vie, en fait. Puis là, tu vis une situation comme ça, où là, on te propose une opportunité, puis là, la braise, à l'intérieur, tu la sens, en fait. Si je mettais ma main, là, je sens qu'il y a encore de la chaleur, en fait. Okay? C'est pas éteint. Puis le rôle, donc, dans un MLM, bien là, on va souffler sur cette braise-là. Là. Puis là, ça va faire prendre le feu, en fait. OK? C'est ça qui arrive. Donc, moi, quand j'ai commencé mon MLM, en fait, j'avais 31 ans, j'avais de la braise encore. J'avais deux choses que je voulais. Je voulais aller à New York, je voulais aller à Boston. Ça, c'était mes deux grands rêves, en fait, que j'avais, là. OK? Après ça, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je savais pas trop. Mais j'ai commencé comme ça, en fait. Puis là, je suis venu au meeting. Puis là, on a commencé à travailler donc des exercices pour voir c'est quoi notre vision de rêve. Puis là, j'ai vu une Annie Marchand qui le faisait à temps plein. J'ai vu une Maria qui a payé sa maison à l'âge de 22 ans. Puis depuis de l'âge de 22 ans, elle n'a plus d'hypothèque. Ok? J'ai vu une Maria et un Mohamed qui ont des immeubles à revenus. Fait que tu comprends que ça... Ça a alimenté donc moi-même ma vision de dire « OK, moi aussi, je veux être un millionnaire, mais je veux le faire de mes mains. Je veux pas gagner à la loto. OK, moi aussi, je veux être libre d'hypothèque. Moi aussi, je veux voyager donc 2-3 fois par année. » OK, donc c'est toutes des choses, dans le fond, qui m'ont permis, donc en contact de gens qui avaient une vision, qui savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, qui voyaient avant les autres puis qui voyaient plus loin que les autres d'avoir la même chose. Mais le danger, c'est que à 45 ans, si c'est pas arrivé encore, tu risques de perdre tes illusions. Puis, on a des beaux exemples. Tantôt, Louise, elle disait « Hey, moi, j'ai 75 ans. » Tu sais, elle est là, donc, à tous les podcasts. C'est quelqu'un qui est impliqué, donc, dans son équipe, qui travaille. Alors, bref, c'est pas parce qu'on a plus que 45 ans qu'on perd ça, mais statistiquement, en fait, on devient de plus en plus complaisant. Fait que c'est pour ça que c'est toujours mieux de recruter les gens le plus tôt possible, en fait, parce que ça leur permet de garder ces rêves-là vivants. Jean-Philippe, moi, je suis curieux de savoir, toi, est-ce que tu tombes dans la définition des 45 ans et plus ou tu avais encore de la braise?
J'ai encore de la braise, je suis encore loin, moi, du 45 ans, OK? J'en ai juste 35 en ce moment. J'ai commencé, j'avais 20, si je me trompe pas, là, si je fais mon calcul, j'avais avoir 26 ans ou 27 ans, en fait, quand j'ai commencé en 2015. Donc, moi, j'étais à un stade où est-ce que je cherchais juste la nouveauté, je cherchais quelque chose, une opportunité, étant un grand travailleur, j'avais plein d'ambition, on voyageait déjà. Donc, j'avais cette ambition-là de dire, je veux voir le monde. Donc, je savais pas comment je voulais le voir, mais je voulais voir le monde, je voulais visiter, j'avais cette ambition-là. Ouais, je voulais plus, vraiment. Fait que moi, j'étais dans ce mode-là, puis au point où est-ce que j'étais dans ma vie, tu sais, on venait d'acquérir une maison, je venais de terminer un baccalauréat, je travaillais, tu sais, pour un programme jeunesse, pour le programme des cadets. Donc, j'étais dans un mode de ma vie où est-ce que je voulais toujours plus, toujours, toujours, toujours. Fait que je l'avais cette vision-là, peut-être pas avec autant de clarté, mais j'avais ce désir-là d'avoir plus dans ma vie.
Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est ça. Fait que quand on commence à un plus jeune âge, en fait, ben c'est le fun parce que ça continue, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Là, t'sais. Donc, je lisais quelqu'un qui disait, moi, j'ai 43 ans, hein, c'est ma réorientation de carrière. Fait que oui, c'est ça, il n'y a pas d'âge. Puis, on peut commencer à 55, 60, comme une Ricky, puis avoir du succès, en fait. Mais le danger, c'est que de plus en plus, les gens deviennent complaisants à l'âge, un certain âge, en fait. Puis c'est normal, en fait. Alors, c'est normal. Je pense que oui, ça fait partie donc de l'évolution. Alors, il y a deux qualités qui vont nous aider, dans le fond, à toujours être focussés pour pouvoir vouloir plus et aussi de pouvoir voir avant les autres, en fait. Alors, la première qualité, en fait, c'est donc de travailler notre créativité. Donc, à tous les jours, essayer donc de trouver des façons créatives de résoudre des problèmes. Donc, on rencontre une situation, essayons de façon créative de trouver une solution à ceci. Okay? Donc, quand je demeure créatif, en fait, bien, ça me permet justement de pouvoir trouver de nouvelles idées. Puis ces nouvelles idées-là, donc, m'aident à alimenter ma vision, donc de voir plus loin puis de voir avant les autres. La deuxième qualité, c'est la flexibilité. Parce qu'on sait qu'il y a toujours plus qu'une réponse à un problème, OK? Donc, on va essayer donc de plusieurs façons, en fait. Donc, pas toujours dire, bien, c'est de cette façon-là que ça doit se faire, mais avec la flexibilité, donc ça amène du piquant et ça nous permet justement donc de rester ouvert et de pouvoir essayer autre chose. Fait que quand j'ai ces deux qualités-là, en fait, bien, ça va influencer donc mon futur. Ça va me permettre de voir avant les autres et de voir plus loin que les autres, en fait. Fait que quand je mets en place, je pratique ces deux qualités-là, en fait, ça m'amène vers une vie d'abondance, OK? Parce que je demeure, c'est comme un peu alerte, en fait, là, un peu comme si je marchais sur une poutre, OK? Donc, je dois rester alerte, créatif, flexible. Ça me permet de voir qu'il n'y a aucune situation qui est sans issue, en fait, qui est désespérée, en fait. Puis, de cette façon-là, donc, je ne permets pas à personne de venir altérer ma vision, OK? Donc, on l'a dit, il y en a plein de gens qui vont essayer de vous décourager, en fait, mais il faut que votre conviction, donc, dans votre entreprise, dans votre MLM, dans votre produit, dans ce que vous faites, et dans votre mission, donc, que ce soit fort. Donc, de cette façon-là, ça va vous aider, dans le fond, à pouvoir être fort, c'est ça, et que quand les gens vont essayer de vous ébranler, bien, vous n'allez pas bouger, vous allez être comme un phare, en fait, qui reçoit les vagues et lui, il bouge pas. Les vagues, eux autres, ils bougent, mais lui, le phare, il reste droit, en fait. Puis, pour ceci, en fait, vous savez, donc, pour augmenter votre confiance, on vient de publier, donc, le podcast de Millionnaire des Diamants, donc, un livre et un livre d'exercice que Jean-Philippe va vous montrer à l'instant, c'est la confiance, donc la clé de la confiance. Donc, ce sont 10 chapitres qui vous permettent, dans le fond, de développer votre confiance en vous, en fait. Alors, ça commence par trouver, dans le fond, c'est quoi vos passions, c'est quoi que vous aimez faire, c'est quoi vos talents, c'est quoi vos qualités. OK? Puis quand vous allez avoir fait cet inventaire-là, en fait, bien là, vous allez comprendre qu'il y a le sweet spot, en fait. Donc, il y a l'endroit où, quand vous mettez tout ça en commun, donc vos qualités, vos talents, vos expériences, tout ça. Donc, vous mettez tout ça ensemble. Alors, vous allez trouver votre sweet spot. Où est-ce que vous devriez être? Puis sur le clou, dans le fond, que vous devriez frapper pour que vous soyez donc sur votre X, en fait. OK? Puis il y a toutes sortes d'exercices, donc on va parler donc de la confiance, on va travailler donc notre vision, donc des choses pour développer notre vision, enlever de la brume pour pouvoir voir plus loin que les autres puis de voir avant les autres. Alors voilà, fait que je vous encourage donc à cliquer sur le lien pour aller chercher donc le livre. Jean-Philippe, tu veux-tu mettre aussi le lien sur Facebook? Alors que les gens puissent voir le lien. Ah, c'est déjà fait. Check-moi ça. Alors que les gens donc puissent justement donc développer leur confiance, parce que quand on a confiance en nous, donc ça nous permet donc d'aller plus loin, d'aller voir plus loin, puis d'avoir une vision pour notre futur. Alors voilà, fait qu'aujourd'hui on a couvert le point numéro 1, il en restera 4 à couvrir dans les prochains podcasts. Alors demain, nous vont parler du livre Hello Fears, donc Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria. Donc soyez des nôtres dès 8h30 demain. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain. Bye tout le monde!